Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter le professeur Wissam El Hadj, que je remercie vivement de nous consacrer un petit peu de son temps pour venir nous parler du stress post-traumatique. Le professeur El Hadj est donc professeur des universités, praticien hospitalier en psychiatrie adulte à l'université de Tours et également au CHRU, de Tours. Comme vous le voyez sur son diaporama, il est responsable du centre régional de psychotraumatologie de la région Centre-Val-de-Loire. Et comme on en discutait juste avant, c'est un concept qui a été nouvellement créé et dans le cadre du contexte des attentats que nous connaissons depuis quelques années. Et la création de ce centre répond à un appel d'offres pour lequel il y a 10 centres qui ont été créés en France, dont un dans la région Centre-Val-de-Loire, présidé par le professeur El Hadj. Et c'est le premier centre qui a vu son ouverture en juin dernier. Wissam El Hadj est également directeur du centre d'investigation clinique du CHRU de Tours également. Il est co-responsable d'une équipe de recherche en psychiatrie neurofonctionnelle à l'unité INSERM IBREN de Tours également. Il est très impliqué au niveau international dans des sociétés savantes, scientifiques, en lien avec le trouble de stress post-traumatique. Il est également, et c'est aussi le titre de sa conférence ce soir, co-auteur d'un ouvrage de référence sur le trouble de stress post-traumatique qui, de mémoire, est sorti en 2017. Voilà, qui est vraiment un ouvrage de référence pour les personnes, grand public ou chercheurs, qui s'intéressent au stress post-traumatique. Et puis, il est également, sur le plan scientifique, l'auteur de plus d'une centaine de publications dans les meilleures revues internationales de la discipline, mais plus largement de la psychiatrie et puis aussi un petit peu de la psychologie. Donc, je le remercie vivement de sa présence ce soir. C'est un vrai honneur pour nous de l'accueillir. Cette conférence, elle est organisée en ouverture d'un congrès que nous organisons à partir de demain à l'université de Poitiers, qui est co-organisé par un certain nombre de structures, dont le département de psychologie, le laboratoire CERCA et l'équipe CAPS, et qui se tient à l'Hôtel Fumé en centre-ville. C'est le 60e congrès de la Société française de psychologie. Je remercie au passage la communauté Grand Poitiers qui a contribué au financement de ce congrès et plus spécifiquement de cette soirée. Merci beaucoup Wissam et je te laisse la parole.
Merci David pour ce gentil mot d'accueil. Merci pour l'invitation. Merci surtout à vous parce que j'étais dehors et j'ai vu qu'il faisait très beau. Donc merci de venir vous enfermer dans une salle avec une certaine chaleur. J'apprécie. Donc le thème que je vais essayer de traiter avec vous, c'est le thème de trouble de stress post-traumatique. Et on pourrait tout de suite s'interroger sur quelque chose de clé, donc post-traumatique qui arrive après un traumatisme. Donc il est très important de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on appelle un traumatisme. C'est un peu parfois un mot qui peut être galvaudé. Les gens peuvent vivre des choses de la vie de tous les jours, se dire stressé, choqué, traumatisé. Mais de quoi s'agit-il exactement? Donc, qu'est-ce qu'un traumatisme? On pourrait dire c'est quelque chose de tellement violent que ça a produit une blessure psychique. Donc, quelque chose de violent, c'est quelque chose qui arrive par surprise. On ne s'y attend pas, ou pas tellement. D'une violence qui sort de l'ordinaire, donc ce n'est pas un stress habituel, ce n'est pas les choses de la vie de tous les jours, normalement, et qui produit chez toute personne, en tout cas la personne qui le vit, un bouleversement émotionnel, une peur qu'on n'oublie pas. Et on considère que dans la vie de tous les jours, sur la vie, on a un risque, tous, un sur trois, voire un sur deux, dans la population générale, au cours de notre vie, d'être confronté à ce type d'événement. Alors, de quel événement s'agit-il? Alors, je vais mettre quelques vidéos de temps en temps, c'est pour pas que vous vous endormiez avec cette chaleur.
Âme sensible, s'abstenir.
Un événement traumatisant est une rencontre avec le réel de la mort.
C'est lorsqu'on est confronté de manière brutale et inattendue à la réalité de la mort dans ce qu'elle a d'horrible et d'innommable. Catastrophe naturelle, agression physique, agression sexuelle, viol, accident, problèmes de santé graves et soudains sont autant de situations potentiellement traumatiques ou traumatogènes, comme disent certains auteurs. Deux personnes subissant le même événement pourront en avoir un vécu très différent et développer ou pas un PTSD. Selon certaines études, sur une vie entière, on a 30% de chances de subir un événement.
Donc vous avez vu que ce sont d'emblée des événements extraordinaires. Et les premières descriptions du traumatisme, les traumatismes initialement décrits comme les traumatismes de guerre, ou ce qu'on appelait les névroses de guerre, ou bien les névroses des chemins de fer à l'époque, dans le 19e siècle. C'était les grandes catastrophes qu'on connaissait. Et avec le temps, ça a été décrit plus autour des post-Vietnam syndrome ou des choses comme ça. Mais si on va du côté de la vie civile, avec les définitions sur lesquelles la communauté internationale on est tous d'accord, c'est la confrontation dans ces événements-là, non pas un simple stress, mais une véritable menace de mort, une menace de disparaître, une menace d'une blessure sévère ou d'une agression sexuelle. Parce que l'agression sexuelle, c'est l'équivalent d'une menace de mort, parce qu'il y a une menace de l'intégrité physique, il y a une intrusion forte, une violence inouïe. Donc le sujet est concerné directement. Ce n'est pas simplement entendu parler. Il est soit concerné directement, soit témoin direct d'un événement traumatique. Par exemple, j'ai vu quelqu'un se faire tuer. Je pense aux événements du Bataclan où il y a la menace de mort pour la personne, mais il y a aussi la menace ou de ce qu'on observe sur des gens humains comme nous. Ou bien d'apprendre, quand ce n'est pas direct ou indirectement par le témoignage, apprendre qu'il y a quelqu'un de proche, lui est arrivé quelque chose d'extrêmement grave, donc où il y a quelque chose de violent, d'accidentel, en fait, d'inattendu. C'est le côté surprise, inattendu. Ce n'est pas quelqu'un, on savait qu'il allait mourir d'une souffrance, d'une maladie au bout de quelques mois. Et enfin, la définition tient compte aussi des personnes qui sont exposées de manière répétée à des violences. On pense aux personnes qui portent secours aux autres, aux gendarmes, aux pompiers, à toutes ces personnes qui apportent du secours et qui sont confrontées parfois à des violences dans les familles ou dans des suicides ou dans des meurtres ou dans des choses comme ça où il y a une violence du regard. Mais ce qui est particulier dans tout ce que je vous ai dit, c'est que si vous prenez ces victimes et vous demandez à ce qu'ils soient examinés par un médecin physiquement, ils sont sains. Donc on va parler d'une blessure non visible. Même si on va avoir un certain nombre, on y reviendra, manifestations physiques qui peuvent venir. Mais en tout cas, la première impression, c'est les blessures invisibles. Et vous avez vu qu'avec les attentats, tout ce qu'on entend récemment, c'est les dispositifs de soins psychiques qui sont les plus sollicités actuellement au-delà des blessures physiques. Et pour garder une image, qu'est-ce qu'un traumatisme, si on doit donner une définition, c'est comme vivre un film d'horreur. Donc pour la victime, c'est à un moment donné la peur de mourir ou de vivre un film d'horreur. Bien, ça c'est la première chose à retenir. La deuxième chose, on pourrait dire qu'il y a plusieurs types de traumatismes. On pourrait dire qu'il y a des traumatismes simples et des traumatismes complexes. Alors qu'est-ce qu'un traumatisme simple ? C'est un traumatisme qui arrive qu'une fois dans une vie, isolé, circonstancié. On peut lister un certain nombre d'événements comme ça, comme un accident, avoir vécu un ouragan, là vous entendez les nouvelles sur les ouragans, une agression physique, une agression sexuelle, un deuil traumatique. Donc c'est arrivé une fois. C'est très rare en fait. Parce que malheureusement, le plus souvent on voit des traumatismes où dans l'histoire des vies des gens, il y a un effet de répétition, où les gens sont confrontés à des violences conjugales, familiales, où la même personne est confrontée notamment dans ces périodes de l'enfance, à ces carences ou maltraitances. Et ce qu'on sait, c'est la répétition qui crée une sévérité supplémentaire, qui crée des modifications même dans la personnalité du sujet. C'est comme si vous prenez une jeune plante et très tôt vous déviez le tronc. Vous voyez, quand elle va grandir, la déviation initiale, elle va rester à vie. C'est un peu la caractérisation sur la personnalité. Donc, quelles sont les conséquences possibles? Que peut-on risquer si on vit un événement J'ai habituellement tendance à dire, dans des événements collectifs, la majorité des gens se portent bien. C'est-à-dire qu'on est naturellement tous résilients face à un événement unique. Donc si vous avez une catastrophe, un accident grave, une intervention auprès de 1000 personnes, vous pouvez être sûr que 950, 960 vont bien. Mais le problème, c'est qu'il y a un petit pourcentage de personnes qui vont avoir, du fait soit de leur propre histoire, soit de l'intensité de ce qu'ils ont vécu, développé des symptômes. Alors si on regarde ce que les enquêtes en population générale dans le monde nous montrent, parmi les gens qui vivent des traumatismes sur la vie, à quel âge arrivent ces traumatismes et de quelle nature? Ce qu'on observe, c'est que si je vous regardais entre l'âge de 10 et 30 ans, vous vous rendez compte que 80% des traumatismes arrivent dans cette période-là. Donc notre jeunesse, c'est la partie dans l'âge où ils ont le plus de risques. Et particulièrement, je dirais même, les moins de 20 ans, puisque vous avez les moins de 20 ans ici pour deux types de traumatismes, ce qui est en rouge et en vert, ce sont les agressions physiques et sexuelles. Les agressions physiques et sexuelles, c'est la cause première des violences, des traumatismes en France, dans les pays non en état de guerre. Et vous voyez que, premier élément, deuxième élément, c'est les jeunes qui en souffrent. Et vous avez tout le débat social autour de la pénalisation, à partir de quel âge, ainsi de suite, qui prend beaucoup de sens quand on regarde ces chiffres-là. D'accord ? Ça, c'est le premier élément d'information. Après, vous avez d'autres éléments qui peuvent arriver au fur et à mesure de l'âge, mais il faut retenir cette première information. La deuxième information, si je vis un traumatisme, au bout de combien de temps je m'en remets? C'est la rémission, la guérison. On se rend compte que pour se remettre globalement d'un traumatisme, il faut à peu près 5 ans. Parce que vous voyez, peu importe le traumatisme, vous avez à peu près 5 ans, les gens chutent le risque de faire un stress post-traumatique dans les 5 ans, autour de 20%. Donc la majorité des gens s'améliorent progressivement, avec ou sans aide, au bout de 5 ans. Sauf pour deux situations ici que vous voyez toujours en rouge et en vert, ce sont les agressions physiques et sexuelles, qui même 20 ans après, vous avez à peu près 30% des victimes qui continuent à présenter des symptômes de troubles de stress post-traumatique. Ce qui montre aussi l'importance de tenir compte et pourquoi des victimes, même 10, 20, 30 ans après, continuent parfois à porter plainte ou à chercher réparation. Alors tout de suite après un traumatisme, qu'est-ce qu'on peut observer? Quand vous vivez quelque chose d'une telle violence, quand vous êtes menacé dans votre vie, dans votre intégrité physique ou pour un proche qui est à côté de vous, vous risquez d'avoir un certain nombre de réactions comme une agitation stérile. Les gens sont en panique en fait, et ce qu'ils font n'est pas très, très adapté. C'est-à-dire l'incohérence avec l'agitation. Vous pouvez avoir des gens complètement sidérés, c'est-à-dire vous les remarquez à peine parce qu'ils se mettent dans un coin, ils ne bougent plus, c'est la sidération. Et vous avez des gens qui ont des comportements automatiques, il y a une catastrophe ou il y a le feu, ils disent « attendez, avant de sortir, je vais ranger mon bureau », qui se mettent dans des comportements complètement automatiques. On voit bien que la conscience, la logique n'est plus présente. Il y a une sorte, l'émotion, la peur prend le dessus et les gens pour se rassurer, font des choses de façon complètement automatique. Ou la fuite panique, c'est-à-dire les gens, il y a le feu de ce côté-là, mais il faut sortir, ils savent que la sortie, c'est de ce côté-là. Au lieu de prendre l'autre sortie, ils continuent dans le comportement dangereux. C'est la fuite panique. Donc, vous voyez, c'est des comportements. Qu'est-ce qui caractérise tous ces comportements? C'est pas très adapté. D'accord? La première leçon, c'est est-ce que le comportement est cohérent? Est-ce qu'il est adapté ou pas? Et ça reflète finalement, est-ce que la personne est en connexion complète avec ses moyens ou ce qu'on dit communément, il a perdu un peu ses moyens en ce moment-là. C'est très intéressant parce que cet état-là se caractérise par quelque chose qui s'appelle la dissociation. C'est-à-dire qu'il s'est déconnecté, il s'est dissocié. Il n'est plus en lien parfaitement avec la réalité, avec ce qu'il vit. Et donc, quand vous n'êtes pas complètement en connexion avec ce que vous vivez, ben vous enregistrez mal. La mémoire enregistre mal ou de façon, sous l'impulsion, si vous voulez, de la peur. Donc l'enregistrement se fait de façon un peu anarchique, comme si vous avez un puzzle sur la table. Vous donnez, le traumatisme, c'est de donner un coup de poing dans le puzzle. Vous avez des pièces, elles sont tous là, mais pas forcément, vous n'avez pas le schéma complet. On va parler d'amnésie secondaire, c'est-à-dire les gens vont dire « je ne me rappelle pas de ce que j'ai vécu ». Mais vous n'étiez pas dans le coma, oui, mais je ne me rappelle de rien. Ce n'est pas une volonté, c'est vraiment un processus automatique, psychique, que les personnes ne contrôlent pas. Ça, c'est l'immédiat. Quelques jours, dans les semaines qui suivent, la majorité des gens vont petit à petit diminuer cette tension psychique pour revenir à un fonctionnement normal. Mais le premier signe, c'est que les gens, le premier jour, ne dorment pas. Ils vous disent, je me suis mis dans le lit, j'avais les yeux grands ouverts et je n'ai pas réussi à dormir, typiquement des gens, par exemple, qui ont vécu le Bataclan. Et petit à petit, ils peuvent avoir une amélioration ou bien, ce qu'on va chercher, nous, à savoir, est-ce qu'ils gardent cette insomnie, cet état d'énervement, le cœur qui bat en permanence pour un oui ou pour un non, à sursauter pour un rien. Et pour certains, ils peuvent garder cet état de stupeur, de sidération, comme dans le règne animal, en fait, si vous voulez. Quand un animal, il a une peur intense comme ça, traumatique, soit il frise, il est là, il est sidéré, soit il part en courant, soit il cherche à se battre. Et on a ces réactions presque donc dans le cerveau animal qui est en nous. Donc on va chercher des réactions souvent d'anxiété, de tristesse, mais sans que les gens soient tristes, une sorte de paralysie affective. Et puis, petit à petit, il y a des petits cauchemars, des flashs, une obsession de ce qu'ils ont vécu qui va prendre le dessus. Si cela continue dans le temps, donc au-delà d'un mois, on va commencer à parler du thème d'aujourd'hui, le trouble de stress post-traumatique. Alors, le trouble de stress post-traumatique... L'état stress aigu, pardon. Donc, c'est le stress aigu. Donc, on a parlé des réactions de stress aigu au moment de l'événement. On a parlé de l'état de stress aigu dans les premières semaines. Et aujourd'hui, on va parler plus en détail de ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique. En fait, qui est quoi? C'est les gens qui vont avoir quatre catégories de signes, de symptômes, qui vont continuer à avoir au long cours. La première catégorie, c'est d'être complètement sous l'intrusion de ce qu'ils ont vécu, comme une intrusion obsessionnelle, sous forme de flash la journée et sous forme de cauchemar la nuit. Mais attention, les cauchemars ou les rêves, c'est pas ça change d'un jour à l'autre, c'est presque la même cassette à l'identique. Cassette pour les plus jeunes, c'est ce qui était avant les DVD, avant les clés USB. Donc c'est quelque chose qui se répète à l'identique, c'est pas quelque chose qui a été digéré, élaboré, modifié, c'est on refait la même chose à l'identique. Suite à ça, donc ils sont obsédés par ce qu'ils ont vécu involontairement, ils cherchent pas à y penser. Il y a un évitement qui se produit, c'est-à-dire que la personne, par exemple, a subi une agression en retirant de l'argent à un guichet. Après, ils vont avoir peur de sortir la nuit parce que quel est le sens d'aller aussi au cinéma si c'est pour se faire agresser, quel est le sens d'aller prendre un pot en vie si c'est pour se faire agresser, puis la journée on ne sait jamais, puis le centre là, à la rue de la cathédrale, c'est mal famé, ainsi de suite. Une sorte en fait de raisonnement un peu qui se met là, mais en fait qui alimente l'évitement. La première cause, c'est pour ne pas être en danger, parce qu'ils pensent, c'est sous-entendu par quoi, ils sont toujours en danger. Quoi qu'ils s'y sortent, ils vont être en danger. Ce n'est plus la peur, il y a une confusion entre peur et danger. Quand on a peur, ben on évite. Et si on évite, l'évitement grandit petit à petit. Il y a aussi un certain nombre de symptômes, une sorte de symptômes affectifs, c'est-à-dire modification de l'humeur qui s'apparente à une humeur triste. Souvent, les gens pensent qu'ils sont déprimés, ou leur entourage dit qu'ils sont déprimés, mais en fait, ils sont abattus. Ils ne sont pas déprimés forcément. Ils ont des pensées négatives, ils se reprochent des choses, ils reprochent des choses aux autres, ils manquent d'intérêt. Quel est le sens d'aller au cinéma si c'est pour se faire agresser? Ce n'est pas qu'ils n'ont pas plaisir d'aller au cinéma. C'est deux choses différentes. Un déprimé n'a pas plaisir d'aller au cinéma. Là, ils ont peur d'aller au cinéma. C'est différent. Sorte de détachement, ils se déconnectent petit à petit, ils se replient sur eux-mêmes. Et quand vous entendez des gens qui ont subi notamment des attentats ou des choses comme ça dans l'espace public, petit à petit, on voit qu'ils se replient, qu'ils lâchent leur habitude, leur activité sportive, la zumba, la cha-cha, ou j'en sais rien. Et donc, du coup, ils se retrouvent de plus en plus isolés, ce qui aggrave la symptomatologie. Et enfin, la quatrième catégorie de symptômes, c'est qu'ils sont à cran, en permanence, irritables. Vous les voyez, vous ne pouvez pas y croire, vous discutez avec eux, vous dites « qu'est-ce qu'elle est agréable, cette personne, elle a l'air angélique ». Et si vous posez la question, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un, une boule de nerfs qui peut exploser d'une façon irritable, une crise de colère pour des petits détails sans importance des fois. Donc des problèmes de sommeil, d'irritabilité, de colère et d'hypervigilance, c'est-à-dire un moindre bruit, l'effet surprise devient insupportable, il les met dans un état de danger, une impression d'être en danger. Donc c'est ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique, avec une fréquence, on considère, autour de 8% dans la population générale, c'est-à-dire sur la vie, on considère qu'une personne sur 12, 13 va développer un trouble de stress post-traumatique, mais bien sûr, plus particulièrement, si vous êtes militaire, si vous êtes dans des populations surexposées, des victimes d'agressions, des catastrophes, si vous vivez dans un état de guerre, ainsi de suite. Donc, selon ces populations, vous avez des chiffres de fréquence de la maladie beaucoup plus élevés. Et quelque chose de compliqué, si le trouble de stress post-traumatique n'est pas traité tôt, ce qui peut arriver, c'est que ça se complique. C'est comme un diabétique, s'il n'est pas traité tôt, il va faire des complications rénales, dans les yeux, vascularisation, ainsi de suite. Mais le trouble de stress post-traumatique, c'est un peu le cas. C'est que les gens risquent de se déprimer après, d'être de plus en plus anxieux. Il y en a qui vont avoir recours aux substances pour se soulager, cannabis, alcool ou autre. Et il y en a certains qui vont avoir le traumatisme, au lieu de s'exprimer uniquement dans cette dimension psychique, va s'exprimer dans leur corps. Ils vont faire des maladies qui s'apparentent à une maladie physique, mais qui n'en est pas. Par exemple, les crises non épileptiques psychogènes. C'est-à-dire des gens, on pense qu'ils sont épileptiques, on les traite comme épileptiques, ça ne s'améliore pas. On fait une vidéo EEG, et là on se rend compte qu'ils font une crise, mais que l'EEG est normal. Il y a d'autres troubles comme ça qu'on observe. D'ailleurs, pour comprendre ce phénomène, c'est très simple. Certains parmi vous, quand ils sont stressés, qu'est-ce qui se passe? Ils ont des plaques d'eczéma, ils ont un bouton de fièvre, des choses comme ça. Donc le corps, quand la psyché n'a pas digéré un vécu, va s'exprimer et on va parler donc de troubles somatoformes qui prennent une forme somatique, mais il n'y a pas de substratum somatique. Alors, si on veut aller plus dans le cerveau, si on veut rentrer dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe? Ben ça, c'est votre cerveau, messieurs, dames. Mais ce n'est pas toujours en couleur comme ça. Ce qui est en couleur, c'est important, c'est quoi? Ça, vous avez en rouge, c'est le centre des pompiers. C'est ce qui donne l'alerte. c'est ce qu'on appelle les amygdales. C'est pas là, c'est un peu au fond du cerveau. C'est pas les mêmes amygdales. Ce sont les amygdales du cerveau émotionnel, du cerveau limbique. Ça, dès que vous avez peur, dès que quelqu'un vous surprend, dès que c'est la porte d'entrée de l'alerte dans votre cerveau, ça va se mettre en alerte complète. Et derrière, vous avez en bleu les hippocampes, pas ceux de la mer, là c'est les stocks de la mémoire, c'est la mémoire dure de votre cerveau. Et vous avez en vert au-dessus, c'est le cerveau plus élégant, plus élaboré, c'est le cortex singulaire, c'est le préfrontal, ce qu'on appelle le cerveau plus intelligent, plus évalué, dont le rôle, c'est le tour de contrôle. C'est lui qui dit, bon, maintenant l'amygdale, on se calme, toi l'hippocampe, tu enregistres ça, tu me mets ça de côté. Donc normalement, quand vous avez peur, ça se passe comme ça, y a une alerte qui se met en route, tout de suite l'alerte, elle est part dans le corps avant tout. Quand vous avez peur, qu'est-ce qui se passe? Première chose, vous avez le cœur qui bat vite, avant même de penser que vous avez peur. Quand il y a quelque chose qui vient pour vous agresser, avant de dire j'ai peur que quelque chose m'agresse, vous protégez. Donc ça, parce que vous ne commandez pas ça, ça se fait automatiquement, grâce à ce centre d'alerte qui déclenche dans le corps un certain nombre de réactions, dont l'accélération du cœur. Elle sert à quoi, l'accélération du cœur? Parce que si vous devez vous battre ou partir en courant, il faut que la pompe s'enclenche. Parce que si vous êtes au fond du transat en train de siroter un menthe à l'eau, ça ne sert à rien. Donc votre organisme se prépare à se protéger. Donc, vous vous mettez en alerte, d'accord? Et le cerveau décharge un certain nombre de ces molécules qui vont aller donner l'information, qui vont augmenter votre capacité d'attention. Quand vous avez peur, tout d'un coup, vous enregistrez tout ce qui se passe, vous êtes attentif, vous voyez tout, c'est magnifique. Vous avez une peur circonstanciée, c'est le genre de choses que vous n'oubliez pas, même plusieurs années après. Par exemple, si je pose une question simple, même si ce n'était pas traumatique pour chacun de vous, comment vous avez appris les événements du 11 septembre? Parce que quelqu'un se rappelle où est-ce qu'il était. Et le 12 septembre, vous vous rappelez de ce que vous faisiez, monsieur? Non. C'est ça, la peur conditionnée, c'est la capacité de l'émotion à marquer quelque chose qui concerne la survie de l'espèce humaine. Donc, normalement, c'est utile jusque-là, et les événements sont enregistrés, comme vous venez de le dire, au long cours. Sauf que le 11 septembre, vous n'étiez pas concerné directement, donc vous avez stocké ça dans la mémoire, mais vous n'avez pas fait des cauchemars, vous n'avez pas fait tout ça. Donc c'est ce qui s'appelle l'extinction de la peur. Vous avez eu un peu peur sur le moment, suffisamment pour s'en rappeler jusqu'à aujourd'hui, mais vous n'étiez pas traumatisé. C'est cette extinction de la peur que vous faites tous les jours, spontanément. Et on pourrait dire que le trouble de stress post-traumatique, c'est la non-extinction de la peur. C'est-à-dire, vous n'arrivez plus à éteindre le feu. Le feu, il est là en permanence. Ce qui nous fait que les gens qui souffrent de troubles de stress post-traumatique ont, en fait, au final, ce centre de pompiers en alerte permanente. Des études en imagerie un peu compliquées ont montré que cette petite amygdale est en alerte, son volume, son activité est augmentée et elle donne l'alerte en permanence alors que ça ne sert à rien. Imaginez, vous avez une sirène qui se déclenche à tout va alors qu'il n'y a rien. D'accord ? C'est un peu ça. Ce qui fait que l'amygdale déclenche, les hippocampes qui sont le centre de la mémoire sous l'effet du stress déclenché par les amygdales, bah, eux, ils subissent ils subissent toutes ces hormones toxiques et leur volume diminue, donc la personne perd confiance en leur mémoire et la capacité à restituer la mémoire peut être mise en difficulté, de même que ce cortex singulaire antérieur ou cette région de tour de contrôle est moins efficace. C'était un peu compliqué, je suis désolé, mais je pense que c'est important pour comprendre que un traumatisme n'est pas que psychique, il y a des facteurs physiques qui expliquent aussi pourquoi les choses perdurent dans le temps. Alors, on a parlé de la dissociation, qui est un peu aussi une autre clé pour comprendre la maladie et les troubles post-traumatiques. Je vais vous montrer une petite vidéo.
Plutôt au cœur de son cerveau, plus précisément dans l'amygdale cérébrale, notre système d'alarme en cas de danger. Dès le début d'une agression, l'amygdale se met en alerte et déclenche la production d'adrénaline et de cortisol, les hormones de stress.
Tout l'organisme, en fait, se concentre pour pouvoir agir et pouvoir fuir ou combattre.
Sous l'effet de l'adrénaline et du cortisol qui baignent tout le corps, le flux sanguin et le rythme cardiaque s'accélèrent. Les poumons sont en hyperventilation, les muscles prêts pour la fuite. Mais quand celle-ci n'est pas possible, très vite, c'est la surchauffe. L'amygdale cérébrale s'affole, le cerveau ne trouve aucune explication rationnelle, rien dans ses souvenirs qui ne puisse calmer ce système d'alarme. C'est la panique totale, la victime est en sidération, comme paralysée, elle ne se défend plus.
On ne peut pas parler, on ne peut pas crier, on ne peut pas bouger, on ne peut pas réagir. Mais comme on ne peut pas réagir, on ne peut pas agir sur son amygdale. Et il va y avoir une sorte de situation de survoltage avec une sensation de stress extrême, dépassé, ce qu'on appelle un stress dépassé, avec un risque cardiovasculaire et un risque neurologique. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va mourir.
Et l'on peut mourir. Alors pour éviter la mort, l'arrêt cardiaque, le cerveau n'a qu'une solution, le court-circuit. Pour cela, il ordonne la libération brutale de substances chimiques, de la morphine et de la kétamine, qui font disjoncter le système d'alarme.
Vous avez compris, c'est finalement cette peur excessive. Au lieu d'aller courir, au lieu de l'exprimer d'une façon utile, la personne est sidérée, elle est paralysée par cette peur-là. Alors, la dissociation là-dedans, vous avez finalement... En fait, sans se rendre compte, vous avez un contrôle permanent sur votre corps, même là, assis, ou dans votre voiture, ou n'importe où. Vous avez conscience de vous-même, de votre corps, de votre mémoire, de vos pensées, de vos émotions. En fait, de façon automatique, c'est magique, mais ça fonctionne. Sous l'effet des traumatismes ou au moment où vous vivez des choses extrêmement traumatiques, il se produit... quelque chose qui va créer un peu ce qu'on disait la dissociation. C'est-à-dire, vous n'avez plus accès, sous l'effet de ce choc-là, totalement à ce que vous ressentez à ce moment-là. Les gens, quand vous leur dites « Mais qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ?» Ils ne savent pas expliquer, dans un premier temps. « Qu'est-ce que vous avez pensé ?» Ils ne savent pas expliquer, dans un premier temps. Donc, il y a une certaine façon, ce puzzle, il y a quelques pièces... qui vous manque, c'est pas qu'elles sont oubliées. Les gens pensent que ils ont vécu quelque chose, ils ont totalement oublié. C'est vrai s'ils étaient dans le coma, s'ils étaient drogués ou des choses comme ça. Mais sinon, autrement, c'est que c'est enregistré quelque part dans la mémoire, mais on n'y a pas accès. C'est la dissociation mnésique, c'est la dissociation de la mémoire. Et sous l'événement traumatique, ceci est d'autant plus violent et d'autant plus culpabilisant. Les gens ont honte, se sentent coupables et se reprochent. Et d'ailleurs, l'entourage n'hésite pas à leur reprocher. Mais pourquoi tu n'as rien fait ? Tu étais là, tu n'as rien fait, tu n'as pas réagi. Donc, c'est manquer de compréhension des mécanismes que de penser cela ou de dire ça, puisque la personne est paralysée et le corps se trouve en pleine sidération à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui fait que ce trouble reste et persiste ? On a parlé de ça tout à l'heure. Le gros problème, c'est l'évitement. Je vais vous donner un exemple simple pour comprendre. Si vous avez une phobie des chiens ou une phobie d'un animal, si vous passez votre temps à éviter l'animal, parce que vous pensez que vous êtes en danger, votre peur persiste, voire parfois elle augmente. Mais si petit à petit, vous faites l'effort d'approcher de l'animal avec de l'aide de quelqu'un, d'apprendre à comment on parle à l'animal, petit à petit, votre peur diminue. Donc l'évitement ne règle pas le problème, elle l'aggrave ou elle le laisse ici. Et pareil, pour quelqu'un qui a été finalement agressé dans la rue, il va penser que c'est dangereux d'aller dans la rue, et plus il l'évite, plus il dit « j'ai bien fait de pas sortir parce que j'aurais pu être en danger ». Et donc, il ne révise pas cette pensée fausse de dire « c'est très dangereux d'aller dans la rue ». Oui, de temps en temps, c'est dangereux, mais la majorité du temps, ce n'est pas dangereux. Donc, si on reste sur cet évitement-là, on n'apprend pas de nouvelles choses. Donc, on reste sur une idée erronée. Et la personne passe beaucoup d'efforts à éviter. Par exemple, à éviter d'y penser. Ils disent « mais moi, je vais oublier ». Ou les gens le disent « mais arrête d'y penser, oublie ». C'est trop facile. Si c'était si facile d'oublier, on le ferait. D'ailleurs, les gens qui ce qu'on appelle résilients, c'est simplement des gens qui arrivent à oublier. Sauf que la personne qui n'arrive pas à oublier, on ne peut pas lui dire « il faut oublier ». Il essaye, mais finalement, l'angoisse est tellement importante qu'il n'y arrive pas. Dans cette dernière partie, je vais plutôt parler des aspects de traitement. Les aspects de traitement et le processus de guérison. Vous avez compris que un des noyaux du problème, c'est le sujet évite les comportements, évite la pensée, évite tout contact qui lui rappelle ce qu'il a vécu. Donc le processus de guérison passe par l'effet inverse, c'est-à-dire petit à petit se réexposer à ce qu'il a vécu sans se mettre en danger. Puisque si je ressors dans la rue un peu, petit à petit, progressivement, de plus en plus souvent, et que rien de mal ne m'arrive, petit à petit, je vais réviser moi, ma peur. Et petit à petit, je vais introduire des nouvelles informations qui vont corriger ma pensée erronée, comme quoi sortir dans la rue est dangereux. Et petit à petit, je vais me rendre compte que le monde est certes parfois dangereux, mais dans la majorité du temps, il ne l'est pas. Et je vais reprendre confiance en moi-même, en ma capacité à aller seul dans la rue et à maîtriser ma peur. Donc ces activations et ces corrections de ces pensées erronées sont possibles si on s'expose à ce qui nous fait peur. Si on ne s'expose pas, si j'ai peur d'un animal et je ne m'y expose pas, ma peur, elle restera là, elle ne va pas changer. Et bien sûr, de réaliser que j'arrive à m'exposer sans qu'il y ait un désastre comme je le pensais. Donc le cœur du problème, cet évitement mental, puisque les gens se refusent à y penser, comme si finalement le fait de repenser à ce qu'on a vécu, on est en danger comme dans la situation elle-même qu'on a vécue. Alors une façon d'expliquer, vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé du film d'horreur. Vivre un traumatisme, vivre un film d'horreur. Si je vous pose la question, si vous regardez pour la première fois de votre vie un film d'horreur, quelle émotion ça vous donne? Une peur, c'est désagréable. Si vous ne regardez pas ce film et 3-4 ans après vous le regardez, ça vous donne la même impression. Mais si je vous demande de regarder le film tous les jours, qu'est-ce qui se passe? On s'habitue. C'est-à-dire qu'on est capable de regarder des choses qui sont horribles, mais on n'a plus la peur, on n'a plus l'émotion qui nous paralyse, et on est capable de re-raisonner à l'endroit où il n'y avait que de l'émotion. Et par rapport à sa propre vie, si on a vécu un film d'horreur, on peut comme ça se réapproprier sa propre vie en disant « j'ai vécu quelque chose de mal, de mauvais, je vais dépasser ». Un exemple encore plus parlant, j'ai une cicatrice qui fait mal, et ça, je vous assure qu'on l'observe souvent. Les gens ont peur de toucher à la cicatrice. Elle continue à faire mal pendant des années. Quand on leur dit, vous prenez un peu de tube de vaseline et vous massez tous les jours, 3 semaines après, il n'y a plus aucune douleur. C'est le même principe quand on touche ce qui fait mal, ce qui fait dire qu'on traite le mal par le mal. Et on traite non seulement la douleur physique, la douleur psychique, et donc on rectifie un peu ces pensées erronées qui sont associées, comme quoi on est tout le temps en danger, on peut faire confiance à personne, on est en sécurité nulle part. C'est un peu le genre de discours, de réflexion que vous allez entendre chez certaines victimes de ces événements-là, ou bien ils vont culpabiliser eux-mêmes en disant « mais je ne suis pas capable, je ne suis pas capable de sortir, je ne suis pas à la hauteur, c'est de ma faute, je ne suis pas capable de me défendre ». Donc c'est aussi une pensée erronée parce qu'ils ne sont pas plus capables ou pas plus incapables que d'autres personnes. Donc le rôle d'essayer de travailler sur ce trauma qui est venu perturber un peu la mémoire, un peu le présent, le trauma qui, comme je vous l'ai dit, provoque un peu des flashbacks, un peu des choses que le sujet n'arrive plus à contrôler, donc le trauma qui vient faire intrusion dans le quotidien. Il perturbe le présent de façon très intense, mais d'une façon involontaire. C'est-à-dire que le sujet subit, puisqu'il ne choisit pas d'y penser quand il veut. Il le subit. C'est la mémoire, c'est l'amygdale qui déclenche des alertes. Il subit l'alerte. Alors nous, ce qu'on lui dit, au lieu de subir ça tous les jours, de déclencher l'alarme tous les jours, on va vous donner une télécommande. Vous allez déclencher l'alarme ou l'éteindre quand vous voulez. Ça s'appelle la thérapie d'exposition. C'est-à-dire, je décide quand je regarde mon film d'horreur et quand je ne le regarde pas. C'est une tentative de l'aider à reprendre contrôle et à ne pas croire qu'il subit cela de façon indirecte. Et ce qui va aider d'ailleurs la personne à reprendre confiance, aider aussi à lever une sorte d'inhibition, c'est-à-dire il pense qu'il ne se rappelle pas de tout, ou pire, qu'il vaut mieux ne pas se rappeler de tout, parce que peut-être que c'est encore pire ce qu'il a oublié. Donc nous, on va le rassurer. On va petit à petit, en tirant sur la ficelle, il va se rappeler de tout. Et là, il va se rendre compte que bah, finalement, ce n'était pas plus horrible que ce dont il se rappelait. Et donc, il y a une certaine reprise de confiance en lui-même et en la mémoire. Et le travail de cette psychothérapie, si vous voulez, comme cette image de puzzle ou cette image du Lego qui est cassée par le traumatisme, c'est qu'on va aider le sujet à remettre un peu ses pièces à leur place, remettre ses pièces de puzzle à leur place, et il va se rendre compte que, voilà, ben en fait, c'est une pièce comme une autre, c'est pas plus grave, c'est pas plus dramatique. Alors, il y a plusieurs thérapies possibles. Vous avez la thérapie d'exposition dont on vient de parler, qui peut être virtuelle, avec des exercices dans la réalité. Thérapie cognitivo-comportementale également. On peut avoir recours à des médicaments pour alléger, notamment quand il y a une dépression associée ou quand il y a une anxiété majeure. On peut avoir recours à de l'hypnose. On peut avoir recours à des mouvements oculaires comme dans la thérapie qu'on appelle l'EMDR. Et pour vous parler de l'EMDR, je vais vous passer une petite vidéo.
Very good. On sait que pendant les rêves, nous bougeons tous les yeux rapidement de droite à gauche derrière les paupières closes, et pour cette raison, ça s'appelle le sommeil des mouvements oculaires rapides, découvert par un Français, Jouvet, dans les années 50. On sait aussi que pendant ces mouvements oculaires rapides, le cerveau digère l'information de ce qui s'est passé la journée même ou bien dans les journées précédentes. Donc le MDR, une des théories pour en expliquer son efficacité, c'est de dire que probablement ça engage le même mécanisme de digestion en déclenchant ces mouvements oculaires rapides qui normalement ont lieu tout seuls pendant les rêves.
La nuit, le cerveau crée des connexions entre les événements de la journée et ceux du passé. Une façon d'archiver et de relativiser ce qui vient de nous arriver. Mais en cas de traumatisme, ces connexions ne se font plus. L'EMDR insisterait donc sur ce travail d'archivage non abouti.
On ne comprend pas bien encore les mécanismes de cette thérapie. Mais il semble que les mouvements oculaires, pendant la séance, facilitent la formation de nouvelles connexions entre les souvenirs du traumatisme. Un réseau se formerait, chaque souvenir paraissant se relier à un autre, puis à un autre, et encore un autre. Et les souvenirs traumatiques, presque pris de vitesse, semble alors remonter d'une connexion à une autre jusqu'au cortex préfrontal. Là, il se connecte instantanément à notre connaissance de la vie, à notre expérience. Cette activité fait alors que le cortex se rallume,
les souvenirs traumatiques basculent dans l'univers de la raison et sont alors archivés dans le passé. L'amygdale s'éteint, le traumatisme est digéré.
Regardez bien tout ce qui remonte. C'est bien. Oh.
C'est magique. C'est une explication, on n'a pas forcément la clé, mais c'est vrai que ça peut parfois être magique chez certains patients d'une telle efficacité. Donc voilà les types de thérapies. Là, on est en train d'expérimenter un autre type de thérapie durant laquelle on demande au sujet de s'exposer à son film d'horreur en lisant son histoire traumatique. Et pendant ce temps-là, on essaye de renforcer cette tour de contrôle du cortex préfrontal avec de la stimulation magnétique ou électrique entre deux électrodes. N'ayez pas peur, c'est imperceptible, c'est 1 milliampère, c'est pas douloureux, rien du tout. Ou bien il y a d'autres études, vous en avez peut-être entendu parler, dans des études comme Paris même, suite aux attentats, ou d'autres thérapies qui utilisent une potentialisation chimique pour faciliter, si vous voulez, l'extinction de la peur, que la peur s'éteigne doucement. Alors, que puis-je faire pour aller mieux si je suis moi-même traumatisé? La première règle, c'est ne pas se replier, c'est de demander l'aide. C'est pour ça qu'on dit ouvrir la porte, c'est sortir de chez soi, bousculer un peu cette peur pour s'exposer à sa peur. On peut s'exposer à son film d'horreur, à ses angoisses, finalement traiter le mal par le mal, et on se rend compte que petit à petit, notamment au début, on a ces peurs-là si on est accompagné, on se rend compte qu'on est en sécurité, on arrive à s'exposer à ces peurs et ne pas confondre peur et danger. Ça, c'est le but de la thérapie, c'est qu'on croit être en danger, on se rend compte qu'on n'est pas en danger. Changer son regard un peu sur les symptômes, c'est-à-dire de redonner une nouvelle compréhension, en fait, c'est de rechanger les pensées erronées qu'on avait sur soi-même, sur le monde qui nous entoure. Et dans les moments difficiles, notamment quand les sujets sont extrêmement dissociés, c'est-à-dire ils se déconnectent, quand on revisite leur histoire, ils vont se déconnecter, mais on va apprendre des exercices de se réancrer dans la réalité pour pas trop se déconnecter. Par exemple, ça peut être faire un jeu. En fait, quand vous êtes très angoissé, vous vous rendez compte que si vous faites un travail intellectuel, c'est-à-dire le cortex de tour de contrôle pour éteindre l'amygdale, faites un truc intellectuel, ça éteint. Quand vous êtes excité sexuellement, excusez-moi, si on vous demande un travail intellectuel, il n'y a plus rien après. C'est le même principe côté émotionnel qui est éteint par un travail intellectuel. Et finalement, la peur est quelque chose d'émotionnel. Si on vous Il y a des études comme ça qui ont fait que chez les gens qui étaient traumatisés, après un accident, on leur a fait jouer au Tetris. Et le fait de jouer au Tetris, c'est un jeu tout bête, hein, de mettre des cubes au-dessus des autres, ben ça a diminué leur peur, et au long cours. Donc ça montre bien qu'on va recréer un équilibre dans le cerveau. Et on va apprendre aussi des techniques de relaxation, de respiration, pour que quand on se sent en danger, on va utiliser ces techniques pour un peu n'importe où, on peut dire n'importe où, c'est la technique du ballon, un peu de gonfler son ventre comme un grand ballon, et puis on va le dégonfler tout doucement. Et donc ces techniques de relaxation sont faciles à réaliser, et on va aussi parler de ses émotions. On se rend compte que les gens qui sont traumatisés ne parlent plus de leurs émotions, ils n'ont même plus la capacité de mettre des mots sur leurs émotions. On appelle ça une certaine alexithymie. Ils ont du mal à exprimer, à verbaliser, à prendre conscience. Et en fait, quand on prend conscience qu'on est en colère, bah, ça évite de taper sur les autres. Quand on prend conscience qu'on est triste, bah, ça évite de se suicider. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu l'idée. Et dans le cas de deuil, bah, voir comment on peut tourner la page, comment on peut se faire aider, comment on peut dire au revoir d'une façon saine, comment on peut avancer le travail thérapeutique en utilisant des traces dans le vivant, un rituel de réassurance, ainsi de suite. Et si je suis proche de quelqu'un qui a été traumatisé, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire beaucoup de choses. La première chose, ne pas banaliser, mais ne pas forcer à la parler. C'est-à-dire de savoir être présent sans culpabiliser et sans forcer la parole. Ne pas brusquer. Si le sujet veut en parler autant de fois qu'il veut, soyez présent, empathique. Ce que le sujet ne veut, c'est que c'est en parler. Il ne veut pas des solutions. Il ne veut pas que vous lui disiez ce qu'il a à faire ou à pas faire. Juste supporter le fait de vous taire et d'écouter ce qu'il a à dire et de recevoir tout en étant empathique émotionnellement, présent émotionnellement. Encourager, pas forcément à entrer dans les détails de ce qu'il a vécu, mais plutôt les émotions que ça lui provoque, les émotions qu'il a vécues au moment des choses et ce qui lui provoque aujourd'hui. Souvent, c'est les mêmes émotions. N'essayez pas de rationaliser. Il ne s'agit pas de dire « mais non, ce n'est pas ta faute ». En fait, la culpabilité est très utile dans un premier temps. Très utile, pourquoi ? Parce que si vous pensez que vous êtes coupable de quelque chose, c'est que vous y êtes pour quelque chose. Et donc, si vous y êtes pour quelque chose, ça vous n'arrivera plus dans le futur. Mais si vous y êtes pour rien, vous êtes en danger complet. Ce qui provoque beaucoup le silence des gens qui n'en parlent pas, c'est plutôt la honte que la culpabilité. Et ça, c'est beaucoup plus problématique. Donc le fait que les gens en parlent, ça lève un peu la honte ou quelquefois, ça peut réactiver la honte sur certains événements. Donc déconseiller de forcer à parler si le sujet n'en ressent pas le besoin. Donc voilà ce que je voulais vous en dire sur qu'est-ce qu'un traumatisme, qu'est-ce qu'un trouble de stress post-traumatique, quelles sont les raisons physiques et psychiques et psychologiques à cela, comment on peut se faire aider, comment on peut demander de l'aide soi-même, comment on peut demander de l'aide ou être présent pour un proche, parce que on sait que un des facteurs protecteurs quand on a vécu un traumatisme, c'est d'avoir un entourage présent, d'avoir un entourage aidant, d'avoir un entourage soutenant. C'est un facteur extrêmement protecteur et qui modifie le pronostic même de la maladie au long cours. Donc, ne pensez pas que vous êtes incompétent, ou ce n'est pas votre domaine, ou ce n'est pas votre rôle. Oui, ce n'est pas votre rôle d'être le psychothérapeute, mais c'est votre rôle parfois d'être simplement présent, aidant et soutenant. Donc, comme disait David au début, on a deux ouvrages qui sont sortis, l'un en 2017 et l'autre en 2018. L'un sur le trouble stress post-traumatique avec un tas d'informations et l'autre plus récent sur les stratégies thérapeutiques des traumas où on parle des différentes stratégies, mais peut-être c'est pour un public un peu plus averti. Donc, j'en ai terminé. Donc, s'il y a des questions, je suis à votre disposition.
Circulez le micro si vous avez des questions. Merci.
Merci. Antoine Molleron de la Société française de psychologie. Merci beaucoup pour votre exposé très brillant que j'ai beaucoup apprécié par la pédagogie que vous avez développée. J'aurais une question un peu, un peu précise. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que j'entends un ou des exposés justement sur le stress post-traumatique. J'en ai d'ailleurs beaucoup entendu lors du dernier congrès de Nice de notre société, où évidemment il y avait eu un certain nombre d'exposés suite à l'attentat du 14 juillet. La question que je me pose, que je me suis posée en vous écoutant, c'est très régulièrement. La relation entre deux grands chefs de file du travail sur le traumatisme, aussi bien historique, je dirais, que pratique même, et théorique. C'est-à-dire toute la théorie neurologique, dont vous avez parlé, d'ailleurs, avec ses récents progrès, et les traitements qu'on peut en tirer, d'ailleurs. Et puis, évidemment, la théorie de l'inconscient et Freud, dont je n'ai pas du tout entendu parler. Donc, je voulais vous demander un petit peu comment vous vous situez par rapport à Freud ou par rapport à la psychanalyse et par rapport à l'inconscient, parce que...
Je ne suis pas inconscient de cette question-là.
Oui.
Freud lui-même a très bien développé cette question-là, puisque dans la première topic, il a parlé de le traumatisme en disant « c'est comme une épine dans la psyché et que tant qu'on ne l'a pas élaborée, on n'arrive pas à s'en sortir ». Sauf que, à l'époque, il a même pointé que la majorité des traumatismes qu'il rencontrait, c'était des femmes victimes de violences, souvent d'inceste, souvent de problématiques traumatismes sexuels dans une société autrichienne qui n'était pas forcément prête à cette évolution-là. Et donc il a abandonné cette première topique pour quelque chose de l'ordre du fantasme. Et ça, c'est complètement insupportable pour des victimes qu'on leur dise « Mais attendez, j'ai vu des collègues avec qui j'ai eu des discussions sur le sujet en disant « Mais qu'est-ce qui vous dit que votre patiente, ce n'était pas un fantasme ? Qu'est-ce qui vous dit que c'est le réel ?» Donc on explique, on essaye d'apporter des éléments et du coup, elle ne comprend pas en disant « Mais rien ne prouve que c'est le fantasme. » Et ça, c'est très gênant. Ça, c'est très gênant. C'est doublement traumatisant, en fait. Puisque non seulement elles sont traumatisées dans le réel, mais elles sont sur-traumatisées par des attitudes de psychothérapeutes qui se disent psychothérapeutes, souvent d'inspiration psychanalytique, qui refusent de regarder le réel tel qu'il est et qui accusent les victimes d'une certaine théorie de la séduction, théorie du fantasme, ainsi de suite. Donc, la psychanalyse, elle a prouvé durant un tas d'années, une complète incompétence sur le sujet telle qu'elle est aujourd'hui complètement déconseillée. La compréhension psychodynamique des choses est une chose, mais la psychanalyse n'est pas une indication thérapeutique dans ce contexte-là.
Oui, Freud a aussi quand même abandonné la théorie du traumatisme parce qu'il voulait passer à d'autres notions pour construire le reste de sa théorie. Sinon, les traumatismes, il en avait eu plein avec la névrose traumatique, avec les névroses de guerre.
Oui. Hein,
et il avait aussi... Enfin, il avait connaissance de ces choses-là. Et il a quand même parlé lui-même du noyau...
C'est pour ça que Freud, j'ai expliqué un peu la cinétique de son changement. Mais le problème, c'est que les psychanalystes, après, en sont restés qu'au fantasme et ainsi de suite.
Donc
il faut croire nos patients que vous recevez... Il faut croire les victimes, il faut les prendre dans la réalité. Ce n'est pas du fantasme. Et on voit bien avec les hashtags MeToo et ainsi de suite, la dimension que ça prend, parce que même des proches nient la réalité en disant « mais c'est pas possible, ton père, ton oncle, machin, n'a pas pu faire ça ». Non, c'est insupportable, franchement, c'est insupportable. Et quand vous êtes thérapeute et vous niez cette réalité-là, c'est encore plus traumatisant. Savoir s'offusquer pour nos patients. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Questions, remarques?
C'est la sidération traumatique, sinon. Madame?
Merci, je vais aller jusqu'à vous. La conférence est enregistrée.
J'avais une question par rapport au lien entre le stress post-traumatique et les troubles du comportement alimentaire. Est-ce que vous avez étudié ou remarqué un lien?
Alors, il ne faut pas être réducteur, mais c'est une excellente question. Je vous ai dit qu'il y a un certain nombre de troubles qui peuvent apparaître après un traumatisme. Alors, on n'a pas parlé de tous les troubles, mais on a observé chez certaines personnes qui développent, mais ce n'est pas tous les troubles des conduites alimentaires, mais certains troubles des conduites alimentaires, on retrouve des fréquences, effectivement, des agressions, notamment sexuelles ou des maltraitances dans l'enfance, qui peuvent finalement conduire au développement de quelques troubles alimentaires. Mais ce n'est pas tous les troubles de conduite alimentaire. Toutes les personnes qui ont des troubles de conduite alimentaire n'ont pas forcément des traumatismes. Donc, avec un peu de prudence. Mais c'est une question qui se pose, c'est une question à rechercher le plus tôt possible. Il ne faut pas oublier que le comportement chez l'adolescent ou l'enfant, c'est une forme d'expression du mal-être. C'est-à-dire que j'arrive pas à parler, j'arrive pas à exprimer, j'arrive pas à dire ce que j'ai. Donc soit je tape, soit je me scarifie, soit j'ai des problèmes alimentaires. Mais souvent, on observe que les scarifications, les gens qui se font du mal physiquement, là, il faut aller chercher du côté du traumatisme. C'est une certaine décharge émotionnelle qu'en se blessant, les adolescents souvent ont ce comportement pour se décharger émotionnellement.
Merci.
Oui, moi je voudrais savoir, vous avez dit qu'il fallait, en cas de stress post-traumatique, avoir recours à des thérapies d'exposition. Or, si le stress s'est installé depuis longtemps et qu'il a engendré une dépression violente, certains thérapeutes disent qu'on ne peut pas avoir accès à ces thérapies d'exposition parce que le patient est trop fragile.
Ce que j'ai dit d'ailleurs, vous avez raison de cette question, puisque j'ai dit, et si les gens sont déprimés, on traite la dépression. Donc effectivement, si on a quelqu'un qui arrive avec un stress post-traumatique et une dépression associée, moi je leur dis, attendez, on va traiter la dépression. Quand vous allez aller mieux, on va traiter le stress post-traumatique. Mais cette séquence, pour pas que les gens s'effondrent complètement, se suicident, ou, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a cette séquence-là, mais ça ne veut pas dire qu'on va refuser le traitement du trouble de stress post-traumatique, mais on va passer par une première étape de traitement de la dépression.
Et lorsque la dépression est résistante, quelle est l'attitude à avoir ?
Il y a des centres experts de la dépression résistante, ouais, et des thérapeutes qui ont des stratégies pour ça aussi.
D'accord, merci. Oui, on a fait plusieurs. Pardon.
Merci. Ah, merci. Il y a notre théorie sur le MDR, c'est-à-dire que c'est seulement une forme d'exposition. Que pensez-vous?
Alors, en fait, je ne sais pas. Je pense qu'il y a une forme d'exposition dans une partie. Je pense que la thérapie d'exposition classique force le sujet à regarder le film, si vous voulez, d'horreur en plein. Et que l'EMDR, c'est un peu, on pense à une scène de ce qui s'est passé et on fait l'EMDR. C'est une exposition partielle, je pense, associée à autre chose. Mais vous avez raison de poser cette question, parce qu'en fait, on se rend compte que dans toutes les thérapies, il y a 4 ou 5 éléments qui sont communs. La première, c'est l'éducation, la psychoéducation. La deuxième, c'est un peu d'apprendre des techniques de relaxation. La régulation émotionnelle, il y a un peu d'exposition. Et après, on réinterprète l'ensemble de ce qu'on a vécu. Et on se rend compte que dans toutes les thérapies, il y a ces dimensions-là. Après, c'est, voilà, est-ce que vous avez accès à plutôt ça ou ça ou ça.
Par rapport à la réinterprétation, comme vous dites, est-ce que ce n'est pas non plus ce qu'on appelle la recontextualisation du traumatisme?
Ça peut.
Parce que j'ai beaucoup entendu ce terme-là.
Recontextualiser, c'est en phase plus précoce, c'est-à-dire que remettre dans... Enfin, c'est un peu comme ce qu'on disait, réassocier le puzzle, ouais, et remettre ça dans le contexte. Quand vous remettez dans le contexte, vous enlevez les autres contextes. Parce que c'est là, en fait, un terme que je ne vous ai pas expliqué, c'est la généralisation de la peur.
Ben oui.
C'est-à-dire, au début, il y a la peur qui est arrivée à un épisode dans un contexte donné, et au lieu que ça reste cloisonné sur ce contexte donné, il y a une généralisation de la peur. Au lieu de dire, j'ai peur de sortir dans telle rue, à telle heure, retirer de l'argent parce que c'est dangereux, ben je dis non, sortir dans la rue est dangereux, sortir tout court est dangereux. C'est la généralisation de la peur. Donc la recontextualisation, c'est une façon de remettre, un peu des limites à cette généralisation aussi de la peur. Une dernière.
Derrière, au fond, et voilà.
David.
Si personne n'a de questions, j'en ai deux alors. Ce sera deux dernières. Merci beaucoup, Wissam, pour la qualité de ta présentation. Deux questions. Donc, tu nous as parlé rapidement du contexte du soutien social, familial, etc., qui est un facteur protecteur. Ce que l'on sait également, c'est que, et tu nous as montré cela au début, il y a un certain nombre de personnes dans la population qui sont exposées à des situations potentiellement traumatisantes et qui pour autant ne développent pas de traumatisme. Donc là, on a vu plutôt le cas des personnes qui développent des traumatismes, et malgré tout, on sait que, par exemple, des personnes qui ont été exposées au Bataclan, certaines ont développé un traumatisme, d'autres pas. Donc est-ce que tu peux peut-être nous en dire un mot sur facteurs de risque ou au contraire quoi, ou de prédisposition ou ce genre de choses?
C'est une excellente question. Alors j'ai vu des gens du Bataclan des deux situations, c'est-à-dire que des gens en fait dans la salle, il faut imaginer aussi la salle, le nombre de personnes qu'il y a. Selon l'emplacement en fait dans la salle, vous aviez un degré d'exposition au traumatisme beaucoup plus élevé ou pas. C'est-à-dire les gens qui étaient tout devant de la scène ou tout derrière de la salle, c'est ceux qui ont été le plus finalement exposés, et les autres, beaucoup moins. Donc, il y a la peur, mais la peur traumatique, c'est autre chose. Il y en a qui ont eu peur, qui ont réussi à se sauver, ou qui se sont mis tout de suite au sol, ils n'ont rien vu, ils ont juste entendu, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés, ils n'ont pas senti le sang couler vers eux. Voilà, ce n'est pas le même vécu, en fait. Même dans un même événement, tu te rends compte que tu ne vis pas la même chose. C'est très étonnant. Ça, c'est un point de vue, donc la sévérité de ce que tu as vraiment vécu directement. La deuxième chose, c'est quelle est ton propre histoire ? Parce que souvent, ça fait écho à d'autres peurs. En fait, les gens qui décompensent un événement à un moment donné, c'est souvent qu'ils ont vécu l'histoire typique d'une personne qui est renversée par une mobylette, qui a des côtes cassées, des problèmes comme ça, et qui développe tout de suite un stress post-traumatique sévère, qu'on prend en charge, qui s'améliore petit à petit. Et là, on se rend compte qu'en fait, derrière, il y avait des violences sexuelles jamais verbalisées. Et ça a fait écho. Ce qui a fait écho, c'est le fait d'avoir été bouleversé, retraité comme, à nouveau comme une chose, non respectée, parce que la personne a pris la fuite. Tu vois, donc il y a des... La répétition des événements est un autre facteur... très négatif. Et puis, on n'est pas tous pareils. Les gens qui ont une personnalité anxieuse, dépendante, qui s'inquiètent facilement, ils sont plus à risque de développer de stress post-traumatique. Les femmes, un peu plus de risque, parce que les hommes deviennent plus agressifs avant de... ou ils s'expriment différemment leurs troubles. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs comme ça.
Merci. Une deuxième question, celle-ci vraiment naïve, la première l'était pas complètement. On entend quand il y a des situations d'urgence, quand il se passe un événement traumatique, on entend souvent parler des cellules d'urgence médico-psychologiques qui sont mises à disposition, qui se déplacent, etc. Et donc je sais que tu as été précédemment, il me semble, responsable de cette cellule dans le 37. Et je l'ai dit dans mon introduction, tu es maintenant responsable du centre de psychotraumatologie du centre Val-de-Loire. Et ma question, c'est est-ce que tu peux, est-ce que tu veux bien exposer un petit peu quels sont les objectifs de cette nouvelle structure, donc unique pour l'instant dans la région centre. Mais je l'ai dit, on aura une dizaine en France d'ici peu. Et éventuellement, comment ils se positionnent par rapport aux cellules d'urgence médico-psychologiques?
Alors, quand il arrive des événements majeurs ou qui concernent un grand nombre de personnes, il y a les cellules d'urgence médico-psychologiques qui ont un premier effet, c'est que les journalistes finissent leurs articles avec ça. Le deuxième effet, c'est que le préfet et les politiques sont contents parce qu'ils ont l'impression d'avoir fait quelque chose. Le troisième effet, c'est que ça permet d'être présent et de dire aux victimes qu'on est humain, et qu'on les respecte, qu'on est là pour eux. Un effet de support, soutien social, et surtout d'identifier les premières réactions. On voit les gens qui s'agitent, qui se sidèrent. On peut identifier, mais souvent, on identifie très peu. Comme je vous ai dit, la majorité des gens arrivent à fonctionner. En tout cas, on est là, on donne un carte de visite, on explique ce qu'ils peuvent vivre, on leur explique pour pas qu'ils se sentent complètement déboussolés par ce qu'ils ont vécu, et on essaye d'identifier les cas les plus sévères pour les prendre en charge. Mais ça, c'est une situation d'urgence, qui durent une journée ou deux. Et après, la CUMP, c'est des volontaires, donc ils reviennent dans leur travail. Et la personne, soit elle s'améliore, elle n'a plus besoin de suivi, soit elle développe au long cours des troubles de stress post-traumatique. Et dans ce cas-là, intervient les centres de psychotraumatologie, où là, on soigne les troubles de stress post-traumatique. La cellule d'urgence, c'est une action préventive presque, ou de soutien initial. Là, nous, on se situe dans le post-traumatique au long cours pour apporter donc des thérapies plus structurées. Une dernière.
Alors une nouvelle question.
Je vais vous demander, le MDR, qu'est-ce que vous en pensez vraiment ? Est-ce que le fait de toujours redire son histoire, toujours revenir sur ce qui s'est passé, est-ce que ça peut être dangereux ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ça doit être fait d'une façon accompagnée, c'est-à-dire que ça dépend pourquoi on fait les choses. C'est-à-dire si on raconte comme un alcoolique dans un bar, raconter la même histoire quand il atteint 2 grammes d'alcool, ça ne sert à rien. Si c'est fait dans un contexte volontiers structuré, avec un certain apaisement en accompagnant par un professionnel, le but, c'est de transformer le film d'horreur en un film sans horreur. Donc, ça peut être utile. Le MDR, c'est une des techniques qui est proposée, qui semble avoir beaucoup d'efficacité. Moi-même, je ne la pratique pas, mais j'ai des psychologues avec qui je travaille et qui la pratiquent. Très bien. Donc après, c'est une méthode. Bien,
s'il n'y a plus de questions, il me revient donc de conclure cette conférence. Un grand merci, Wissam, de ta présentation. Je pense qu'on a eu un très bon aperçu de ta double compétence, à la fois de chercheur et puis à la fois de clinicien qui intervient dans la prise en charge des psychotraumatismes. Donc, très grand merci de ton déplacement et de la qualité de l'intervention. Je l'ai dit, cette conférence était en pré-ouverture du 60e congrès de la Société française de psychologie qui se tient donc à Poitiers, à l'Hôtel Fumé, à partir de demain matin. La thématique fédératrice de ce congrès, c'est apprentissage, vulnérabilité, prévention. Donc l'intervention de ce soir était exactement inscrite dans cette thématique. Merci à nouveau à Grand Poitiers pour le partenariat et puis bien sûr à l'espace Mendès France pour son accueil et les nombreux échanges préparatoires que nous avons pu avoir. L'espace Mendès France qui nous convie toutes et tous à un pot pour terminer au cours duquel on pourra échanger les uns et les autres et en particulier avec Wissam juste avant qu'il reprenne la route. Alors l'adresse de l'hôtel Fumé, on me l'a demandé tout à l'heure, effectivement, donc c'est 8 rue René Descartes. Merci beaucoup et je pense qu'on peut applaudir Wissam.